Bonjour et bienvenue dans l'émission Carrefour du Maine. Valoriser le patrimoine et promouvoir la musique ancienne, c'est le credo de l'association A Plaisir, une association qui réunit une quinzaine de membres, pour ainsi dire, de 7 à 77 ans. Pour que la mélodie des luths et autres viols prenne tout leur sens, les musiciens du 21e siècle endossent leur costume renaissance et se produisent dans des lieux atypiques, des lieux à la fois intimistes et chargés d'histoire. Professeur de luth et fondateur de l'association créée en 2009, il est le chef d'orchestre de ce mouvement. J'ai le plaisir d'accueillir Cyril Gilbert. Bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés, un des membres de l'association, Michel Meunier, qui est à la fois musicien, chanteur et danseur. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et donc, ils ont attiré l'attention de Sylvie Granger, qui est l'auteur de cet article paru dans Maine Découverte. Alors Sylvie, vous êtes historienne et chargée de nombreux travaux justement sur la musique ancienne. Alors on va commencer justement avec vous Sylvie. Alors, première question, qu'est-ce qu'on appelle justement musique ancienne?
C'est ce qu'il y avait avant la musique classique, on pourrait dire, pour répondre de manière très très simpliste. En gros, ça couvre les périodes du Moyen-Âge à la Renaissance, peut-être au début de l'époque baroque aussi.
Et donc on retrouve des instruments spécifiques justement dans cette époque. Quels sont-ils? Cyril, on vous écoute.
Alors, les bas instruments, qui sont les instruments qui sont faits plutôt pour être joués en intérieur, et les hauts instruments en extérieur. Voilà, on va faire très rapide.
Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples?
Oui, alors bien sûr, il y a les instruments de la famille du luth, les viols de gamme, les flûtes à bec. Voilà, tous ces instruments-là sont faits pour être joués en intérieur. Et puis en extérieur, c'est les hauts instruments qui font du bruit, on va dire, entre guillemets. Hein. Donc, c'est des instruments pour faire des parades, donc des chalémis, des sacs-boutes, voilà, ce genre d'instruments.
La façon d'en jouer n'est sans doute pas la même. Les partitions, est-ce qu'elles sont les mêmes que la musique qu'on trouve actuellement?
Alors déjà, les instruments sont des instruments qui sont situés dans l'histoire. Donc, c'est des instruments qui appartiennent à une partie de l'histoire qui n'ont pas perduré après. Donc, on pourrait dire que c'est les ancêtres de certains instruments. Ce qui est vrai, par exemple, je donne un exemple, le basson. Il y a un basson à la Renaissance qui deviendra un basson baroque, puis après un basson moderne. Donc là, il y a une évolution. On dit bien une évolution dans le temps, hein. On ne dit pas que c'est de mieux en mieux, mais une évolution. Puis les instruments qui sont typiques de cette époque-là, qui ont disparu, qui ne sont pas joués après, c'est le cas du luth qui a évolué un petit peu à l'époque baroque, mais après il a complètement disparu. Donc déjà, il y a des instruments qui sont spécifiques. Donc effectivement, le répertoire, lui aussi, il est spécifique, et forcément la manière d'en jouer est liée à l'esthétique musicale de cette époque.
Très bien. Et donc vous, Michel, vous êtes membre de cette association à plaisir, et vous jouez de quel instrument?
Alors, je touche le tambour, je préfère le terme de toucher le tambour que de percussionniste.
Alors, Sylvie, dans son article, dit caresser, caresseur.
C'est un terme d'époque.
Oui, enfin, toucher.
Toucher, c'est le terme de l'époque.
C'est le terme de l'époque.
D'accord.
On est toucheur d'orgue, on touche la
cornemuse. On pince la guitare.
On pince la guitare.
On touche le clavecin, par exemple.
Et moi,
à l'époque baroque.
J'aime bien cette expression, toucher le tambour. Parce que, à l'époque, le tambour Renaissance est un instrument sur lequel on peut sortir plein de sons différents. On n'a pas un son, on n'a pas un tambour, un son.
D'accord.
Le roulement de tambour, c'est pas du tout Renaissance. C'est vraiment très après que ça, quoi. Donc moi, je fais du tambour, je fais du chant, je fais de la danse.
Et vous avez appris tout ça aux côtés de Cyril?
Alors, aux côtés de Cyril, mais ailleurs aussi, il existe d'autres compagnies qui font de la danse ou de la musique Renaissance.
Donc notamment, on peut peut-être citer la compagnie Outre-Mesure,
par exemple.
Qui est très active dans l'Ouest.
Et donc, pour revenir un petit peu à cette association, Cyril, vous êtes professeur de luth. Il y a beaucoup d'élèves qui s'intéressent à la musique ancienne.
Non. En fait, la rencontre avec la musique ancienne, c'est vraiment le hasard. On la découvre. Pour beaucoup d'instruments, vous allez avoir des gens qui vont arriver dans des écoles de musique conservatoires en disant « je veux faire de cet instrument-là », parce qu'on connaît cet instrument-là, le violon, la guitare, la flûte traversière. On vient rarement dans une école de musique à un conservatoire en disant « je veux faire du luth, je veux faire de la viole de gamme ». Ça a forcément été une rencontre, auparavant, lors d'un concert, et c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc en fait, la difficulté, c'est effectivement d'amener cette musique-là aux gens pour la faire connaître. Alors, je tiens à préciser quand même que cette musique est considérée comme musique savante par les ministères, et les instruments qu'on joue, ce sont des instruments dits rares. Alors, si je dis ça, c'est pas parce que, effectivement, ils sont rares, mais le fait de les cataloguer rares fait qu'on les laisse dans ce sentiment de rareté, qui est quand même quelque chose d'assez négatif.
Et ce qui est impressionnant dans cette compagnie à plaisir, c'est que justement, il y a beaucoup de jeunes aussi qui s'intéressent à ces anciennes pratiques.
Moi, je dois dire que c'est un des éléments qui me séduit beaucoup dans la compagnie, hein, cette différence d'âge avec, en effet, toutes les gammes d'âge, y compris des adolescents,
oui.
Qui est un âge où on a quelquefois un peu de mal
oui, ou les
à mobiliser
musicaux,
les jeunes. oui.
Peut être
vraiment
différent.
Une déclinaison et c'est très intergénérationnel et très plaisant parce que ça fonctionne manifestement. Je les ai beaucoup observés. Ça fonctionne.
Et justement, ce qui leur plaît, c'est aussi donc cet apprentissage de la musique, mais il y a aussi peut-être tout ce côté mise en scène qui est un élément intéressant aussi pour les jeunes.
Et puis, je pense, c'est comme un grand jeu de rôle, en effet. Hein. On est un autre, on revêt un costume et on se glisse dans une identité d'il y a plusieurs siècles, dans un manoir, dans une jolie une chapelle, dans un lieu un peu extraordinaire. Je pense que oui, c'est des expériences qui les marquent.
Hein. Et donc, je voudrais revenir aussi un petit peu encore sur la musique ancienne. Donc, Sylvie, elle était composée pour des occasions précises. C'était des commandes. Peut-être que Cyril pourra aussi nous répondre.
Alors c'est un petit peu compliqué parce que déjà la musique ancienne, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de partitions, on peut dire d'œuvres musicales, si on se limite à l'époque de la Renaissance, dans une petite centaine d'années en France, la production est absolument gigantesque, mais énorme. On ne peut pas imaginer à quel point il y a eu de production musicale. Donc de dire qu'elle a été faite pour telle ou telle occasion, c'est un petit peu rapide comme chemin. Il y a plein de raisons de faire de la musique ou d'en produire, d'en écrire. Alors voilà. Donc il faut quand même se rappeler quand même que cette époque-là, c'est très important parce que l'imprimerie, comme tout le monde le sait, c'est Gutenberg, c'est pas la Bible, mais c'est, ça n'a pas été le premier ouvrage, mais c'est en 1450. L'imprimerie musicale, les premières, en 1501, donc d'accord. En Italie, et nous en 1529, donc il y a quand même un délai. Mais ça veut dire que c'est des dates qui sont importantes parce qu'à partir de là, il y a vraiment une expansion de la production musicale qui est très très importante. Ça veut dire que tout est lié en fait. Ça veut dire que s'il y a plus de production, il y a aussi plus de gens qui vont pouvoir en faire, qui vont pouvoir acquérir de la musique écrite. Et il y a tout un bouleversement qui se fait. Donc, je vais dire une chose qui est tout à fait. C'est le début du capitalisme. La production musicale, ça correspond à un besoin de l'imprimerie de vendre et de vendre et de vendre en quantité.
D'accord.
Donc ça veut dire que tout simplement, à l'époque, la musique se développe parce qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de faire de l'argent. Alors ça peut paraître un chemin qui peut paraître bizarre, mais c'est effectivement le cas. Il ne faut pas oublier qu'aussi à l'époque de la Renaissance en France, alors Sylvie là va pouvoir rebondir, c'est que c'est relativement calme, il n'y a pas beaucoup de guerres non plus. Et les stabilités,
une fois les guerres de religion
un petit
terminées,
peu.
Oui.
Voilà, et puis à la fin du XVIe, c'est un peu plus compliqué aussi.
Oui.
Mais autrement, tout ce qui s'est développé, et on voit, c'est très intéressant parce que historiquement, on a les dates de publication des ouvrages qui sortent des imprimeries, et on voit que toutes les périodes qui sont plus calmes, d'un seul coup, ça explose. Et les périodes où il commence à y avoir des tensions, hop, ça redescend. Voilà.
D'accord. Et tout le monde avait accès à la musique ou il y avait certaines catégories de...
Ah non, là, je pense que c'était... Enfin, la musique écrite était quand même assez élitiste. Il faut se souvenir tout simplement qu'on est dans une période où l'immense majorité des gens, de toute façon, ne savent pas lire ni écrire. Hein. Que ni les lettres, ni les notes. Malgré tout, je pense que ça représentait un marché, pour reprendre ton idée de capitalisme, Cyril. Un marché relativement large quand même, parce que quand on dit les élites, ce ne sont pas que la noblesse. Ça peut aussi descendre jusqu'à une bourgeoisie enrichie, dans les villes en particulier, qui... joue à imiter en fait le genre de vie de la noblesse. Il y a aussi certaines passerelles pour permettre à des gens du peuple, à des enfants du peuple, d'atteindre la musique savante. Et parmi ces passerelles, il y a les maîtrises d'enfants de cœur.
Voilà, j'allais y venir.
Auprès
justement.
De chacune des cathédrales de France, donc il y en a plus de 130. Auprès de la plupart des collégiales, et là il y en a des centaines, et puis dans certaines grandes paroisses. Alors ça fait, mine de rien, ça fait quand même des gens qui ont accès à la musique, y compris la musique savante.
Alors justement, je vous propose d'écouter un extrait. Alors Cyril, vous allez pouvoir nous parler un petit peu des morceaux que vous avez choisis.
Voilà, alors toutes les occasions sont bonnes pour faire de la musique, et entre autres, on nous avait proposé il y a 2 ans, en fait, les éditions CDL, donc qui sont à la Basoge, qui font des livres audio, d'illustrer en fait un ouvrage dont l'histoire se passe en fait au 15e. Donc on a cherché dans notre répertoire tout ce qu'on pouvait mettre pour illustrer cette musique-là. Et ce que vous pouvez entendre, ce sont effectivement des musiques, grosso modo, on va dire, ça va du 13e au 15e siècle. Voilà.
On pourra écouter quel type d'instrument dans ces extraits ?
Alors, ce qu'on a cité, c'est-à-dire qu'il y a des percussions, il y a des luths, il y a des flûtes, Il y a de la viole, il y a de la harpe. Voilà, il doit y avoir à peu près tout ça.
Donc des morceaux enregistrés par l'association À Plaisir que je vous propose d'écouter tout de suite. Nous sommes de retour pour parler de Maine Découverte et dans ce numéro 96 qui est actuellement en kiosque, un article est consacré à l'association À Plaisir. Et pour parler de musique ancienne et patrimoine, je suis en compagnie de Sylvie Granger, Michel Meunier et Cyril Gilbert. La particularité d'À Plaisir, c'est justement de se produire dans des lieux patrimoniaux comme le château du Lude, Coudrecieux ou encore le manoir de la Cour. Tous ces lieux exceptionnels vous procurent un décor des plus authentiques et le spectateur a vraiment l'impression de faire un retour dans le passé. Alors justement, Michel, vous qui participez à tous ces concerts, vous avez aussi donc chaque musicien et un costume qui lui est propre, un costume d'époque.
Oui, on tient beaucoup à ça. Donc on a des costumes, alors selon les moyens de chacun. Hein. Moi, je me suis fait faire un costume par une costumière. Donc, pour la petite histoire, j'ai passé 2 heures à discuter avec elle avant qu'elle puisse me dessiner quelque chose qui corresponde à mon tempérament et à ce qui pouvait être la réalité de l'époque.
Voilà. Et vous aviez fait des recherches, justement, avant
Bon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, qui est costumière spécialisée dans ce domaine.
Oui, et voilà, ça permet historique. En Mayenne,
c'est pas loin.
Hein. Un patrimoine.
C'est aussi un patrimoine. Ça permet à quelques-uns de la compagnie qui sont des plus réactifs, je dirais. Dans la compagnie, il y a des gens qui font que d'un instrument. Il y en a qui font que chanter. Et puis, il y en a plusieurs, et on est assez nombreux, finalement, à faire du chant, de la danse, de la musique, à jouer d'instruments. Et évidemment, quand on est amené à avoir plusieurs activités, il faut forcément faire un effort un peu plus important sur le costume. Vous ne pouvez pas danser avec un costume bricolé. On peut, quand on est un peu caché derrière son instrument et qu'on ne bouge pas... Voilà, donc chacun y met l'énergie qu'il a envie d'y mettre. J'ai tendance à dire, c'est comme l'instrument. Si le costume il est beau, on n'a pas le droit de danser mal. Il faut être à la hauteur du costume. Quand on achète un vrai instrument, qui est une copie d'ancien, on ne peut pas être médiocre. Il faut travailler et il faut être à la hauteur de l'instrument.
Donc,
c'est un peu ça l'idée aussi.
Et Cyril, justement, on parlait tout à l'heure, vous me disiez qu'il y a certaines personnes de l'association se prêtaient au jeu, justement, de faire des costumes, de les créer.
Oui, en fait, l'association, c'est un prétexte, hein. C'est un cadre pour pouvoir faire des choses. Alors, bien sûr, effectivement, c'est une association qui fait de la musique, mais toutes les personnes qui veulent venir se joindre à nous, dans la mesure où ça correspond à notre activité, peuvent en fait s'épanouir dans une direction ou dans une autre. Michel parlait des costumes, et voilà, on ne va pas interdire à quelqu'un, on ne va pas imposer à une personne d'être comme ça ou comme ça. Voilà, c'est un cadre. Vous parliez tout à l'heure du patrimoine. Quand on va jouer quelque part, on est de la musique dans du patrimoine. Donc ça veut dire qu'on ne vient pas... Il y a une synergie, en fait, qui se crée. Et surtout, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'à chaque fois, les lieux sont très différents. L'accueil est très bon. Mais nous, on choisit, vous savez, les gens qui ne veulent pas de nous, qui ne sont pas agréables, on ne va pas les voir. Donc, c'est-à-dire que partout où on est passé, les gens sont très agréables.
Ça m'a l'air d'être tout le temps très charmant.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a une très très grande liberté, c'est qu'on a une très grande autonomie. Et quoi qu'on en dise, ce qui est assez surprenant, on l'a vu samedi dernier, quand on a fait notre concert à Parigné, où il y avait une centaine de personnes, ce qui ressort toujours chez les gens, c'est qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a une petite connivence entre nous dans l'association. Ils ont l'impression, les gens, quand ils nous voient jouer, ils ont l'impression qu'on est bien, qu'on s'entend bien, ce qui est vrai en plus. Ce qui est vrai. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça marche.
Et que vous y prenez du plaisir.
Ah oui, ça, on y
prend
du plaisir.
Le nom est bien choisi.
Et donc, on parlait justement des différents lieux de concert et c'est facile de trouver une salle pour pouvoir jouer dans un lieu patrimonial, pour accueillir du public ?
Alors ça l'est plus maintenant, parce que maintenant on nous appelle pour nous demander de venir jouer. En fait, Sylvie le dira mieux que moi, des endroits où on peut jouer, il y en a vraiment des quantités phénoménales. Après, des endroits où on irait faire de la musique, vous savez, on a une époque où la musique, on la fait dans des salles où on fait de la musique. Il y a des salles pour, des salles des fêtes, des salles de concert. Nous, on ne va pas dans ces lieux-là. C'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est pas fait pour.
Oui.
Donc on se remet dans le contexte un petit peu, hein. On est au 21e siècle, mais on se remet dans le contexte de se dire, il y avait de la musique dans ces lieux-là, on va faire de la musique dans ces lieux-là. Donc effectivement, des lieux comme ça, il y en a plein. Après, les gens qui sont entre guillemets responsables de ces lieux, ce qui peuvent être des propriétaires privés, ça peut être des institutions, sont pas toujours à même de comprendre exactement quand on leur dit, voilà, on va faire de la musique dans votre belle salle, dans ce manoir, ils comprennent pas. Et ça peut, c'est tout à fait logique, ils comprennent pas. Souvent, ils ont compris une fois que c'est fait, que c'était faisable. Mais c'est vrai qu'on doit un petit peu expliquer, montrer les choses.
Et j'imagine que l'acoustique aussi, finalement, se prête particulièrement bien à la musique, ou parfois vous tombez sur des salles qui, finalement, ne prêtent pas à la musique.
Alors, ce qui se prête pas à la musique, c'est les salles qu'on connaît, qui sont les salles des fêtes. Parce que ça se prête à tout, les salles des fêtes. Non, sérieusement, dans tous ces lieux-là, les acoustiques sont très très différentes. Comme pour venir à ce qu'on disait au début, on joue des bas instruments, ces instruments qui étaient faits pour être joués à l'intérieur.
D'accord.
Nous, on est surpris parce que, tout à l'heure, vous évoquiez le château du Lude. On a joué au château du Lude en pleine période estivale. Donc, les gens visitent le château, ils sont habillés en short, ils sont en t-shirt, c'est des vrais touristes, et nous, on aime ça. Et ils viennent, on joue pour ces gens-là, faut le savoir.
Mmh.
Et ils rentrent dans la salle, donc déjà, il y a le décor qui est posé, puis nous, on est en costume et des instruments. Et on va jouer, alors, quand c'est ces moments-là, on fait des interventions courtes, hein, d'un quart d'heure, 20 minutes. Et on va voir 50, 60 personnes, des enfants, des étrangers qui viennent, et ils s'installent, ils savent pas ce qu'ils vont découvrir, et ils sont extraordinairement silencieux. Et pendant un quart d'heure, on a un silence terrible.
Une qualité d'écoute.
Et ça, c'est génial. Moi, j'évoque toujours, il y a de nombreuses années de ça, on avait joué dans un château, c'était pareil en été, et on s'était retrouvé avec des enfants qui faisaient de la musique en costume, et en face d'eux, il y avait des motards. On imagine bien les motards, gros bousons de cuir, les tatouages. Et ils se sont assis et ils ont regardé. Et franchement, ça, ces moments-là sont vraiment magiques pour nous.
Ouais, c'est vraiment des moments qu'on invite les auditeurs à partager avec vous. Et donc justement, quand vous préparez ces concerts, vous choisissez votre répertoire en fonction du lieu, de l'époque. Comment ça se passe ?
Oui, éventuellement, ça peut être en fonction de l'époque, mais c'est surtout Pendant des années, en fait, on a fait des concerts et des interventions pour faire déjà découvrir cette musique-là. Donc, vous savez, on n'est pas dans une dynamique de l'esbrouf, entre guillemets, de la complexité. On fait des choses qui sont parfois très complexes, mais on a un rôle quand même pédagogique au sein même de l'association, mais aussi envers les gens qui nous écoutent. Donc, on adapte, on fait des pièces qui sont relativement courtes, on fait des choses qui sont assez variées pour que les gens, on essaye qu'ils ne s'ennuient pas, puis qu'ils découvrent un petit peu. Et maintenant, c'est vrai qu'on essaye de trouver des thématiques. Par exemple, là récemment, on a fait un concert de musique qui tourne autour de l'Espagne. Voilà.
Et donc, les gens donc, peuvent vous voir, vous écouter. Sylvie, dans l'article, vous dites aussi que vous invitez aussi le public à participer, à danser avec vous. C'est un aspect aussi qui est assez sympathique.
Ah oui, ça, moi, je considère que c'est une des grandes forces de À Plaisir. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait avec les motards tatoués, mais en général...
Non, j'ai pas dansé.
J'ai pas assisté à la scène, en tout cas. À chaque fois que j'ai eu l'occasion d'y assister, ça marche très bien. Parce que justement, les touristes en short et en tongs, eh bien, malgré tout, quand ils prennent les mains de deux danseurs de À Plaisir qui sont en costume, touriste en short se redresse et danse, et prend plaisir à danser, et se coule dans un nouveau personnage lui aussi.
Et donc, pour revenir sur la partie danse, est-ce que ces danses anciennes étaient extrêmement codifiées? Comment ça se... L'apprentissage est aussi un peu particulier, j'imagine.
Alors, codifié, oui et non, parce qu'en fait... Oui, bien sûr, il y a des principes, il y a des pas. On est en général en ronde ou quelquefois en cortège de couples les uns derrière les autres. Et il y a des pas de base que chacun doit respecter. Mais à l'intérieur de ces pas de base, on a une très grande liberté individuelle que j'expérimente personnellement à chaque fois qu'il m'est donné de danser ce type de danse. Vous avez 10 personnes qui dansent. Certes, elles font 2 pas vers la gauche, 1 pas vers la droite, par exemple. Mais... aucune des 10 ne fait exactement la même chose en réalité.
D'accord.
Chacun exprime sa personnalité avec plus ou moins de fougue, plus ou moins de finesse, plus ou moins de légèreté, avec des petites fioritures qu'on peut ajouter sans déranger les voisins du tout. Donc, c'est à la fois des danses collectives et des danses de liberté.
Finalement, tout le monde peut participer assez facilement.
Alors, par ailleurs, oui, au niveau, il y a des choses qui sont complexes, mais ce que À Plaisir fait danser au public sont évidemment des danses de base, ce qu'on appelle des branles simples. Déjà, le nom lui-même dit que ça ne doit pas être bien compliqué. Et branles doubles, branles coupées, divers. C'est accessible à tout le monde, oui.
D'accord.
Je dis quelquefois, il faut connaître sa gauche de sa droite, mais même, c'est pas obligatoire.
Bon, ça paraît assez simple. Alors justement, Cyril, quelles sont vos prochaines dates de concert et quels sont les lieux que vous avez choisis?
Est-ce que je peux revenir juste sur ce que venait de dire Sylvie?
Bien sûr.
Très bien illustré. En fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans l'association, les gens vont où ils ont envie d'aller et où on peut les porter, où on peut les encadrer. Michel parlait des costumes tout à l'heure, ceux qui veulent se faire plaisir, voilà... à avoir des costumes. Et pour les danses, effectivement, alors, pour ma part, moi, j'ai aussi une formation d'art ménétrier, c'est-à-dire de la musique pour la danse. Et dans l'association, donc, Michel danse. Et on fait effectivement des danses pour le public. On les invite à danser. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Comme ça s'est passé samedi dernier, à 23h dans l'église. pas froid, non, mais les gens viennent danser. Et par contre, on a aussi des envies dans l'asso de faire des danses qui sont somme toute complexes et qui sont pas évidentes. Mais on a aussi les compétences dans l'association pour le faire.
Ce sont à ce moment-là de la démonstration. Vous ne
oui,
faites pas
danser
fait. Au
public. Sont,
faut
voilà,
bien
donc on fait
deux
effectivement
moments,
les
oui.
deux. D'accord. Donc on peut faire des bases danse italiennes par exemple avec des chorégraphies qui sont très complexes qu'il faut reconstituer dans l'espace à partir de manuscrits. Donc ça, on le fait aussi. Donc voilà, le mélange
et
est intéressant.
C'est Nathalie qui s'occupe de ce travail de recherche en quelque sorte à partir de manuscrits ou d'imprimés anciens dans lesquels sont expliqués de façon pas forcément très claire, très directe, les danses.
Je tiens à préciser qu'il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est qu'À Plaisir reste une association de musiciens et de danseurs, de chanteurs amateurs. Quand j'ai précisé ça l'autre jour dans l'église à Parigny, les gens se sont levés et nous ont applaudi. Alors on n'en tire aucun mérite, mais ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des gens dont c'est le métier. On parlait de la compagnie Autre Mesure tout à l'heure, et nous on a été formés avec des gens qui sont véritablement des professionnels. Donc en fait, À Plaisir n'est pas du tout là pour prendre la place des professionnels, n'est pas du tout là pour faire des auditions comme on trouvait dans les écoles de musique, ça c'est hors de question, mais on fait un lien en fait entre tout ça. On est là pour dire qu'il y a aussi une composante qui est là et qu'elle est importante parce que c'est comme ça qu'on amène des gens vers de nouveaux horizons. Et votre question, c'était les prochaines
dates. Justement, les prochaines dates, rapidement.
Alors, la prochaine date, date, bah, Michel, peut-être tu peux en parler.
Bah, la prochaine date, c'est au Donjon de Ballon.
Donjon de Ballon.
Le Donjon de Ballon, le 6 mai, il y a la remise du prix du plus beau monument sartois. Donc on va.
Et donc si on veut plus d'informations, on peut bien sûr aller sur le site.
Voilà, la journée est en train de se construire, le déroulé de la journée.
Et le site.
Et on fera le site. Ah oui, sur le site
de plaisir. Oh, bah,
c'est aplaisir.org.
Voilà, donc vous pourrez retrouver toutes les informations et donc on vous invite au Donjon de Ballon très prochainement. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus parler de cette formidable association. Et donc, si vous voulez lire cet article et en savoir un petit peu plus, eh bien, vous pourrez retrouver le numéro 96 de Maine Découverte actuellement dans les kiosques jusqu'au mois de mars. Et puis, pour plus d'informations sur les éditions de la Rainette, www.editionrainette.com. Merci beaucoup et à bientôt.